Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Dedans. Touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés avec Gore de mer, un ouvrage collectif paru chez Gore des Alpes. Cours Christine Cours de Kasproviak, un ouvrage paru dans la collection Carnage chez Zone 52 Édition. Sous les cendres de Christopher Carlson, paru chez Pygmalion. Berserk, tome 41 de Kentaro Miura, paru chez Glénat. Zé, une tragédie africaine parue chez Dargo, et ça c'est signé Olivier Apollo au scénario et Bruno Thielleux au dessin, que nous retrouverons pour un entretien. Et puis on va parler aussi de comics avec Dark Ages, l'âge sombre de Tom Taylor et Ivan Coelho, Spider-Man, Spider-Verse de Dan Slott, Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli. Tout ça, c'est chez Panini. Et puis, on va parler d'une des meilleures BD de tous les temps, hein, Transmétropolitane, le tome 1 de Warren Ellis et Derek Robertson, la BD Vertigo qui vient de paraître là, dans la nouvelle collection Nomade d'Urban Comics. L'équipe de Culture Prohibée remercie Élise Brun, Slav Kamikuzova, Chrissy Tournière, Hélène Werl, Philippe Battaglia et Jérémy Grima pour leur aide sur cette émission. À mes côtés pour causer sortie bouquin, je suis accompagné aujourd'hui de deux de mes chroniqueurs préférés, à savoir Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut Damien, salut GG et bien évidemment salut à toutes.
Mon cher Thomas, toi qui aimes beaucoup quand ça saigne, hein, tu aimes beaucoup la littérature gore, eh bien je vais te laisser débuter cette émission pour que tu nous parles de Gore de mer.
C'est avec bien du retard que je vais vous parler de la dernière publication de la collection Gore des Alpes, qui cette fois a délocalisé. Eh oui, elle a délocalisé le temps d'une anthologie, la collection est allée faire un tour en bord de mer. Oui, Gore de mer, c'est son titre, et le livre à lire sur la plage, au bord de la mer donc, entre une vision des Dents de la Mer dans la salle de cinéma de votre station balnéaire préférée, et de Sharknado sur votre écran plat afin de vous motiver à aller vous baigner. D'accord, l'été se termine, voire est même terminé. Tout le monde retourne tristement au boulot, mais maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est un peu l'été toute l'année. Vous pouvez dévorer ce recueil à la piscine ou dans votre salle de bain, au bord de votre baignoire, au lieu d'aller au boulot. Gore de mer rassemble 17 auteurs de la collection qui s'y mettent à cœur joie pour conter des histoires d'eau et de sang, plus ou moins en rapport avec la plage, les fonds marins et les éventuelles bestioles qui y habitent. Parfois, le lien ne tient d'ailleurs qu'à une vaguelette, mais je peux vous dire que le contenu reste salé de toute façon. Ils sont tous présents, les auteurs de Gore des Alpes, et se sont tous réunis pour cette petite virée en bord de mer, avec en plus Dita Von Spott et Vincho, qui n'ont pas signé de roman dans la collection, en tout cas pas pour l'instant, mais faisaient déjà partie de l'anthologie hivernale de la collection « Ça sent le sapin ». Donc Stéphanie Glacé, fidèle à elle-même, narre les mésaventures d'un enfant albinos malencontreusement né sur l'île d'Ouessant, où perdurent de vieilles superstitions. François Marais évoque une époque gangrenée par le réchauffement climatique et la télé-réalité. Jordi Gabiou fait un sort aux antivax en comptant l'expédition d'un bateau en route vers la Papouasie au XVIIIe siècle. Quant à Éric Fellé, il exhume Cthulhu des profondeurs dans une nouvelle dont le personnage, forcément tourmenté, évolue dans une atmosphère forcément glauque. Toujours écrite avec humour et ironie, mais dans des styles différents, de la plus potache à la plus élégante, ces nouvelles tordent le cou aux conventions, à la bourgeoisie et aux puissants, en évoquant des thèmes d'actualité tels que la pollution, le réchauffement climatique et les manipulations génétiques. On y croise donc des sirènes, des tueurs en série raffinés et gastronomes, des anguilles particulièrement agressives, un ersatz marin du comte Dracula, des sous-marins allemands et soviétiques échoués, et entre les zombies nazis et les zombies communistes, on finit par se demander lesquels sont les pire. Certains textes s'avèrent particulièrement corrosifs, comme celui de Louise-Anne Bouchard, véritable styliste, qui signe Monstre Marine, ou encore celui de Philippe Battaglia, putain de touriste, plus drôle et railleur. Quand l'une dénonce la société patriarcale, l'autre s'attaque au tourisme de masse. Bien sûr, le sexe côtoie le sang et autres fluides plus ou moins épais et craspec dans des histoires de vengeance, d'inceste et de dénonciation de maltraitance animale. Bref, la collection Gore des Alpes, même quand elle part en virée au bord de la mer, reste fidèle à ses valeurs pour teinter le bleu de la mer de ses couleurs qui vont du rouge foncé à l'écarlate. Et je vous rappelle où on peut trouver les livres de la collection Gore des Alpes en France. À Paris, dans les boutiques Metaluna Store et Hors Circuit, à Frontignan, à Prose Café Librairie. Sinon, vous pouvez toujours les commander directement sur le site de Gore des Alpes, goredesalpes.ch.
Je vais rester dans la littérature gore avec le dernier opus. Alors là, c'est pareil, c'est paru en juin, donc je le chronique avec un peu de retard. Surtout quand je l'ai reçu, je l'ai lu en 2 heures, j'étais scotché. Ça m'a super bien plu. Je vais bien sûr parler de Cour, Christine Cour, de Kasproviak, le nouveau roman de la collection Carnage. La couverture de Will Argunas, tout de suite, elle provoque pour toute personne étant née au début des années 70 comme moi, quelque chose de particulier, puisqu'on y voit un tueur qui pourrait être celui, qui pourrait être Michael Myers en fait, hein, sauf qu'il porte le masque de la Dame de Fer. Faire porter le masque de Margaret Thatcher, qui était dans la vraie vie, qui pouvait être monstrueuse, hein, Bobby Sands et certains militants de l'IRA qui sont morts en prison de faim se rappellent à quel point elle pouvait être très très dure. Et ben là c'est un tueur, une sorte de tueur impitoyable. Et la comparaison avec Michael Myers n'est pas innocente, parce que c'est un tueur, vous pouvez lui tirer dessus. Transperce cette balle, il continuera à vous poursuivre. Alors, il y a une raison à tout ça, évidemment. Hein. Le livre démarre dans la plus pure tradition, d'ailleurs, collection gore, c'est-à-dire qu'on a deux hommes se retrouvent, on est à la fin des années 80, et puis ils décident d'aller faire une partie de jambes en l'air dans la maison, parce qu'il y en a un des deux qui a réussi dans le monde du vidéoclub, et ils décident d'aller faire une partie de jambes en l'air avec deux filles qui ont l'air particulièrement open, dont cette certaine Christine, hein, qui a l'air d'être complètement nymphomane, en fait, voilà. Donc évidemment, ça commence comme une sorte de roman presque pornographique, et puis ça part en sucette parce que pendant qu'ils sont en train de faire leur partie à quatre, eh bien voilà que débarque ce tueur qui se met à massacrer littéralement tout le monde. Et évidemment, là, ça devient très, 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 très sanglant. Et ce tueur, justement, Christine, elle va réussir à lui échapper. Je ne vous raconte pas comment. Et elle va continuer à fuir, pour essayer d'échapper, cette Cour Christine Cour, donc hein, la Christine du titre, pour essayer d'échapper à ce tueur. Ce tueur qui cache une révélation qui va intervenir à peu près vers la moitié du bouquin, qui cache une révélation toute lovecraftienne, si j'ose dire, qui fait basculer ce roman gore dans toute autre chose. Voilà. Et c'est bien écrit, c'est rythmé, c'est comme d'habitude. C'est de la très bonne littérature gore. Les fans me comprendront. C'est de Kasproviak et c'est paru dans la collection Carnage chez l'éditeur Zone 52. Et c'est disponible sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. On va rester dans les livres sans images. Mais oui, on est des dingues, nous. On lit des gros livres où il n'y a pas d'images, tu te rends compte, Thomas ?
Oh là là.
Donc on va rester avec, moi, une vraie surprise qui est parue chez Pygmalion. un livre de presque 400 pages de Christopher Carlson qui s'appelle « Sous les cendres ». Alors Christopher Carlson, c'est un peu un auteur à la mode en Suède, hein. C'est un vrai criminologue qui est bardé de prix, voilà, là-bas, et qui s'est mis à écrire des polars, qui est diplômé d'un doctorat de criminologie à l'université de Stockholm, ça il l'a eu en 2014, et qui est considéré comme le renouveau de la littérature noire scandinave. Donc je demandais qu'à découvrir, et donc je me suis jeté sur cet ouvrage qui s'appelle « Sous les cendres », qui est traduit par Karine Bruy, et qui se déroule sur plusieurs époques, mais on va démarrer par la première époque, c'est en novembre 1994, il fait froid, on est en Suède, hein, c'est normal de toute façon. Quand il fait chaud là-bas, il fait 15. Et une maison est réduite en cendres, et sous les décombres, une jeune femme est retrouvée assassinée. Pour les habitants de la communauté rurale de Marbach, dans le sud de la Suède, cet événement fait date. Il y aura un avant et un après, particulièrement pour le jeune Isaac Nyquist, dont l'oncle n'est autre que le petit ami de la victime, coupable tout trouvé, qui sera rapidement condamné à la prison à vie. Vidar Jorgensen, policier débutant, est fier d'avoir contribué à la résolution de l'enquête. Mais il est loin de se douter que cette affaire le conduira au bord du désastre 9 ans plus tard. Et à partir de là, on va débuter un ouvrage qui se déroule sur 3 époques, 1994, 2004, 2017. Un ouvrage qui constitue une chronique sociale passionnante, un ouvrage sur l'atavisme, le déterminisme. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on devient ce qu'on est? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est le poids de la société? Est-ce que l'atavisme fait que, comment dire, quand on est le neveu d'un tueur, est-ce qu'on devient soi-même un tueur, ou est-ce que c'est la société qui vous regarde forcément comme un tueur? Qu'est-ce que la société attend de vous, que vous soyez un tueur? Enfin voilà, toutes ces questions-là sont particulièrement bien traitées. Et puis surtout... Surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une intrigue assez labyrinthique et on finit par s'y retrouver. Et le livre est assez passionnant parce que quasiment à un tiers du livre, l'intrigue est résolue. Donc on se dit, c'est bouclé, c'est fini, pourquoi il reste encore autant de pages? Et évidemment, le labyrinthe continue d'errer dans ce labyrinthe. Ça devient de pire en pire. Mais tout à coup, évidemment, on se rend compte que ce qu'on avait pris pour la vérité n'est pas la vérité, et qu'il va falloir progresser dans cette intrigue pour découvrir plus. Et que, évidemment, comme tout bon roman noir, il y a beaucoup de faux-semblants. Et puis en même temps, on est convié à une analyse de ces sociétés nordiques que l'on nous définit toujours comme presque une sorte d'idéal, hein, social-démocrate, où l'on découvre que ce n'est pas si chouette que ça d'habiter en Suède. Voilà, donc je vous conseille vivement, ça s'appelle « Sous les cendres » de Christopher Carlson, et c'est paru chez Pygmalion. Écoutez Culture Prohibée. We'll be right back. continue de rattraper notre retard. Et là, c'est comment dire, le dernier tome paru de la BD Berserk, un manga. C'est le tome 41, qui est donc qui correspond au chapitre 364 de Berserk et qui est alors non seulement qui est monstrueux parce que le contenu est vraiment dévastateur, mais qui aussi est l'ultime chapitre écrit et dessiné par Kentaro Miura, donc qui est mort donc en mai dernier, hein, le 20 mai 2021, et qui est considéré comme l'un des plus grands mangaka de l'histoire du manga, et que donc son décès fait que, même s'il se murmure que la série va être reprise, mais qu'on se dirige vers une histoire inachevée. Quoi. Voilà. Donc, c'est Berserk, c'est quoi ? Ça se déroule dans un univers de dark fantasy où l'on suit la vie de Guts, un enfant abandonné de tous, qui devient guerrier pour survivre dans un monde impitoyable, évidemment. L'ambiance est sombre, mais il y a aussi, bien sûr, des moments d'espoir. Il y a des personnages secondaires qui interviennent et qui sont très attachants au cours de la quête du héros. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de violence. Mais ce n'est pas du gore pour du gore. Tout sert le propos et tout sert à faire évoluer ce personnage de Guts et qui sans cesse progresse tout au fil de l'intrigue de ces 364 chapitres. Voilà. Et donc, c'est le dernier chapitre, je l'ai dit, hein, du grand Kentaro Miura, qui donc peut être interprété comme une conclusion et qui reste toujours, voilà, qui Berserk, ça vient conclure un manga culte, hein, qui est à la fois un manga qui rend hommage à Jérôme Bosch, hein, puisque c'est une des influences, le Jardin des Délices, c'est une des influences majeures de ce mangaka. Le sabbat des sorcières, hein, au niveau de ses influences, Goya. Il y a aussi Escher, il y a aussi Giger, parce qu'il adore Giger, donc on retrouve beaucoup de l'univers de Giger. Et puis au niveau cinéma, il y a un peu du Hellraiser, un peu du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, et puis surtout, il y a beaucoup de Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est visiblement un film qui l'avait marqué. D'ailleurs, le costume de Griffith est une copie du costume de Winslow, et ces deux personnages sont l'un et l'autre défigurés. Voilà. Alors, je vous dis que ça. Je vous dis juste aussi que normalement, l'histoire devrait devrait se continuer. Et on parle que tout serait supervisé par Kouji Mori, l'un des plus grands amis de l'auteur. Voilà. Donc maintenant, on attend avec impatience de lire tout ça. Il y aura forcément des déçus, mais il va falloir composer avec.
Oui, Berserk, l'un des plus grands, l'un des chefs-d'œuvre mondiaux du manga, qui raconte une histoire, comme tu l'as de manière rapidement résumée, vraiment intense, entre l'amitié que Guts et Griffith a, qui va finir par se déchirer et provoquer quelque chose de cataclysmique. J'en ai parlé avec beaucoup de fans, car je lis le manga, et justement, on se posait la question, est-ce que Berserk avait besoin d'une fin après Kentaro Miura ? On est très... très divisé sur la question, parce qu'en soi, c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions humaines à travers le manga qui circulent et qui fait que l'histoire n'a pas vraiment de fin, et en même temps, on aimerait bien en avoir une. Et comme tu l'as dit, c'est repris par un des proches. Normalement, ce sera repris par l'un des proches de Kentaro Miura, mais c'est une grande perte incroyable pour l'univers des mangas, parce que non seulement pour son influence il s'est inspiré beaucoup de l'Occident, mais il y a des dizaines de milliers de mangas qui sont sortis derrière, qui se sont inspirés de lui. La dark fantasy, c'est la référence. Ses pages sont magnifiques, d'une noirceur incroyable. Il a beaucoup de références artistiques, comme tu as pu les citer, mais ce qui s'en dégage, c'est vraiment un produit unique, jamais vu, et qui le restera, je pense, à jamais.
Après ce petit moment manga, et avant de passer un petit moment comics, on va se diriger vers notre ami Thomas, qui lui est venu avec une BD bien de chez nous, une BD française. Et Thomas, tu veux nous parler donc de Dze, une tragédie africaine, d'Olivier Apollo et Bruno Thielleux, paru chez Dargaud, auteur que tu vas nous inviter également à rencontrer.
C'est une tragédie africaine, on revisite l'histoire de la République démocratique du Congo, du temps où le pays s'appelait le Zaïre, et l'histoire s'attache particulièrement à la chute de son dictateur Mobutu Sese Seko en y transposant le mythe de Phèdre. L'inspiration de Tsé est évidente quand on connaît un peu l'histoire de cette partie d'Afrique centrale, avec son voisin qui a subi un génocide et les conséquences sur l'est de la RDC, le palais construit au fin fond de la jungle, les différentes milices en présence, la diaspora libanaise et ce dictateur avec sa toque léopard, son obsession de conquérir l'espace en y envoyant une fusée et sa tendance à faire jeter les corps de ses opposants dans cet immense fleuve qui traverse la région, dont un qui est dénommé dans la BD Pierre Moulala et qui ne fait ni plus ni moins référence à un célèbre opposant de Mobutu, Pierre Moulélé, qui a subi un sort particulièrement horrible. L'intrigue de Tsé, une tragédie africaine, se situe donc en grande partie dans ce palais situé quelque part au bout de ce fleuve immense et au fin fond de la forêt équatoriale. Une rumeur dit que le vieux dictateur aurait été tué alors que le pays s'enfonce dans le chaos d'une guerre civile. Les membres du clan présidentiel vivent les derniers moments d'un régime corrompu qui disparaît. Le destin d'Hippolyte, fils de Tsé, croise une ultime fois celui de Bobby, la jeune épouse du dictateur porté disparu. Se révèle alors un amour impossible et monstrueux. Tsé, une tragédie africaine, mélange bien des tonalités, des genres pour raconter la fin d'un régime, d'un monde, et le dessin de Bruno s'y adapte. Il apporte une touche de réalisme quand il s'agit de décrire les rues de cette ville fictive, inspirée à l'évidence par Kinshasa, et n'hésite pas à créer des ambiances plus fantastiques puisqu'on y parle aussi de malédiction qui intervient un sorcier. Alors, le dessinateur crée des atmosphères plus sombres, aux cases plus chargées en détails, en opposition au monde du palais, plus épuré, aux cases plus larges. Il y a aussi quelques belles planches qui représentent Mami Wata. Mami Wata, hein, normalement, c'est une déesse vaudou, mais qui, dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, prend bien d'autres formes. Donc, le loa vaudou de l'eau et qui est très craint. Là-bas. Le mysticisme qui imprègne les sociétés africaines prend aussi la forme d'un combat de catch dont les auteurs disent s'inspirer de matchs vus dans un quartier huppé situé dans les hauteurs de Kinshasa. On m'a raconté des histoires étranges à Kinshasa, mais je n'ai jamais assisté à ces combats malheureusement et il va falloir que j'y remédie. Mais retour à cette bande dessinée dans laquelle scénaristes et dessinateurs dépeignent des situations et des personnages complexes, captent les paradoxes, les rancœurs, les divergences qui peuvent exister au sein d'une même famille. En l'occurrence dans celle d'un dictateur sanguinaire. Construit en flashback, le récit, très documenté, relate bien tout cela. Les enfants qui vont étudier en Europe, la soif de pouvoir sans limite du père, la jeune femme vénale qui l'épouse, les enfants dont les parents sont des opposants politiques, mais qui s'entendent plus que bien. Apollo évite les clichés, le manichéisme et se révèle plus pessimiste que complaisant. Apollo et Bruno décrivent bien les mécanismes d'un pouvoir corrompu et d'une dictature sanguinaire et ses conséquences sur la population civile. Avis à ceux qui se pensent actuellement en dictature. Bien évidemment, Tsé, une tragédie africaine, est une fiction qui prend des libertés avec la réalité, mais tout en prenant des chemins détournés, la BD d'Apollo et Bruno donne une idée assez précise de ce qu'était la RDC quand le pays s'appelait alors le Zaïre. Bibile, bibile. Balalo, balalo, kabibi, epikiye, efikomai, Olivier Apollo et Bruno Thielleux, vous êtes donc les auteurs de Tsé, une tragédie africaine. Que pouvez-vous nous dire sur la genèse de cette bande dessinée qui, je crois savoir, a quand même duré un bon moment ?
On a réfléchi à une histoire africaine contemporaine il y a un peu plus d'une dizaine d'années. À l'époque, je vivais en Angola, puis surtout au Congo, à Kinshasa. Donc on a beaucoup réfléchi à ça, puis arrivé, comme l'a dit Bruno, l'idée d'une réécriture de Phèdre, version congolaise, mais version Congo de fiction. Et puis ensuite, l'idée est revenue, oui, c'est ça, il y a 3 ans, quand on en a reparlé avec Bruno, et on y allait, et c'était pas mal d'une certaine manière, parce que tout ce qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années avait eu le temps à la fois de mûrir. Il y a des choses qu'on a abandonnées, des choses qu'on a gardées, des nouvelles idées qui sont venues, ce qui fait que c'est pas tant que pendant toutes ces années on a réfléchi fondamentalement au récit, mais il y a le filtre du temps a permis de savoir un petit peu ce qu'on voulait garder, ce qu'on préférait enlever, quoi.
Alors, justement, comment vous en êtes venu à imbriquer l'histoire de la RDC, anciennement le Zaïre, et les personnages de Racine ?
Ça vient notamment des documentaires du cinéaste belge Thierry Michel, qui a consacré une série de films sur Mobutu, la vie de Mobutu, qui s'appelle Mobutu, roi du Zaïre. Et je crois que c'était sous-titré à un moment une tragédie africaine. Et à un moment donné, il évoquait le fait que le destin du pays était proche du destin des tragédies. Et ça m'a frappé vraiment, parce que je me suis dit, mais effectivement, si on y réfléchit bien, ces personnages à l'orgueil démesuré, etc., rappelaient pour beaucoup les personnages de la tragédie grecque. Et ce qui m'intéressait, d'ailleurs, c'était pas tant de reprendre une tragédie grecque, même s'il y a beaucoup d'éléments de la tragédie grecque qu'on retrouve dans le livre, mais de reprendre la trame narrative du Phèdre de Racine, donc qui est plutôt une tragédie classique du XVIIe siècle, évidemment aussi héritière de la tragédie grecque. Et beaucoup de choses collées, en fait. Soudain, ça s'est emboîté comme dans un puzzle. Mobutu, Thésée, son fils Hippolyte, sa femme, sa deuxième femme, etc. Et donc il y avait quelque chose d'extrêmement excitant à se dire que des récits qui à l'origine datent vraiment du 5e siècle avant Jésus-Christ, enfin voilà, très anciens chez les Grecs, chez les Athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ, ont pu fonctionner pendant toute l'Antiquité, ont pu fonctionner au 17e siècle pendant l'âge classique en France, et ont fonctionné aussi dans les années 30 en France quand le théâtre a repris les mythes antiques, et pouvaient de nouveau fonctionner, alors de manière réactualisée, à la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, pour nous, aujourd'hui. Finalement, on actualisait quelque chose de très ancien, et ça disait encore à la fois quelque chose d'éternel et quelque chose de nouveau, quoi.
On peut dire que le livre est tout, quelque part va au-delà de l'actualité de Mobutu, hein, parce que cette histoire d'épouse qui couche avec son beau-fils, quelque part, ça, on peut y voir aussi l'actualité de Kabila, hein, Kabila dont on dit qu'il n'est pas le fils de son père, qu'il était un fils adoptif et qui apparemment couchait avec l'épouse de son père.
Il y a toute une série. Alors, je me prononce pas sur la filiation avérée ou pas de Kabila fils par rapport à Kabila père, mais il y a toute une histoire comme ça. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que Kabila père, avant qu'il prenne le pouvoir à la chute de Mobutu, avant qu'il soit le tombeur de Mobutu, il est un opposant en armes au régime de Mobutu depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'il a été même en contact avec Che Guevara quand celui-ci a fait son expérience congolaise dans les années 60. Donc on se retrouve avec une série de personnages, de figures qui sont assez étonnamment un peu les mêmes, Mobutu, Kabila, ou Che Guevara si on veut, etc., et qui vont accompagner le destin d'un pays, ou plus exactement le pays accompagne leur destin. Et je trouve ça assez intéressant, parce que c'est ce que dit aussi la tragédie grecque, un nombre limité de personnes et le monde entier semble les accompagner dans leur chute ou dans leur gloire. Et donc c'est vrai que on aurait pu continuer après la chute de notre personnage, qui est donc un avatar de Mobutu, avec Kabila et son fils. Et Kabila, il se fait assassiner par son bras droit, son fils supposé prend la suite, etc. L'opposant à Kabila, c'est Tshisekedi, qui était déjà l'opposant de Mobutu, mais qui était aussi son premier ministre. Enfin bref, toutes ces histoires-là renvoient aussi assez étonnamment à la théâtralité de tout temps, quoi.
Et comment vous avez défini l'esthétique de l'album ? Parce que moi, j'y vois deux esthétiques très, très distinctes entre des parties fantastiques et des parties plus réalistes.
Alors, je vais laisser Bruno répondre parce que c'est lui qui sera... Ce qui est intéressant, c'est que, juste pour le côté fantastique, si on avait voulu faire véritablement un ouvrage qui était... qui relevait du documentaire. Bon, évidemment, c'est pas le cas, hein, puisqu'on on a transformé nos personnages pour que ce soit des vrais personnages de fiction, même s'ils sont très inspirés de la réalité congolaise. En fait, tout ce qui relève de la spiritualité, etc., aurait été des évangélistes ou des églises de réveil, etc. Parce qu'en fait, la question religieuse au Congo ou en Afrique centrale, c'est plutôt des questions qui sont liées aux églises protestantes qui s'y sont installées depuis des décennies maintenant. Mais comme moi, je souhaitais vraiment qu'il y ait ce lien avec le mythe éternel, j'ai préféré réactiver des questions qui sont des croyances religieuses anciennes, traditionnelles, du type Mamiwata, le Ndoki, l'esprit des eaux, etc., parce que ça rentrait dans mon projet d'avoir une véritable réécriture du mythe ancien et de donner une espèce d'intemporalité. En vrai, sans doute qu'il aurait mieux valu faire des évangélistes si on avait voulu faire quelque chose qui relevait du documentaire. Pour l'esthétique, je laisse Bruno qui répondra mieux que moi.
Oui, après, l'aspect esthétique du livre, moi je l'ai abordé de manière assez candide, dans le sens où, comme le disait Apollo, vu que notre livre n'est pas un documentaire sur l'Afrique centrale, j'ai fait un espèce de pot pourri d'images d'Épinal et puis d'archétypes fantasmés pour ce qui est des représentations, notamment du Ndoki ou de Mamiwata, mais même dans les autres aspects du livre, en fait, je sais pas. Enfin, je serais curieux de savoir comment un Congolais prend la lecture de ce livre, mais si tu veux, moi, en termes de, j'ai opéré une réappropriation culturelle avec mes fantasmes graphiques sur l'Afrique, dans le sens où, par exemple, le sorcier, le Ndoki, il porte un masque qui est inspiré d'un masque Yaka que je trouvais très beau graphiquement, mais c'est certain que c'est pas du tout la réalité, parce que les sorciers ils portent pas des masques comme ça, et puis en gros c'était j'avais envie de recréer une image d'une Afrique que je fantasme et qui me stimule graphiquement plus que de proposer une vision très documentée et très réaliste de l'Afrique, quoi.
Dans le récit, la manière dont on l'a conçu, il y a comme des espèces de fragments de récits de genre. C'est-à-dire que, par exemple, dans le début du récit, lorsque le personnage de Tse est annoncé comme mort, il y a le clan, enfin ce qui reste du clan, Bobby, etc., qui essaye de gérer l'héritage. Donc il y a quelque chose qui relève presque du film de gangster, de mafia, où on se donne de l'argent, on élimine des gens, etc., etc. Il y a des passages qui relèvent plus presque du mélodrame, il y a des personnages qui relèvent presque de l'épopée, et on s'est beaucoup amusé aussi à créer comme ça des fragments de types de récits. Le récit d'initiation avec le personnage d'Hippolyte, par exemple, qui part faire ses études à Paris et sa découverte de l'étranger, du fait de partir loin, etc. Et donc ça a sans doute convoqué des formes d'esthétique différentes qui sont liées au récit associé, au genre associé plus exactement.
Vous écoutez Olivier Apollo et Bruno Thielleux, respectivement scénariste et dessinateur de Zé, une tragédie africaine parue chez Dargaud, au micro de Culture Prohibée.
Beaucoup d'écrivains congolais, ivoiriens ou même belges, hein, comme David Van Reybrouck, Amadou Kourouma ou Sonny Laboutancy. En quoi ont-ils, comment vous ont-ils influencé dans l'écriture ou même dans l'esthétique de l'album ? Je pense notamment à En attendant le vote des Bêtes sauvages, hein, qui à mon avis est une référence évidente à votre album.
Ouais. Oui, oui. En fait, de tous les écrivains qu'on cite, celui qui est le plus évident, enfin l'instigateur le plus évident, c'est effectivement Kourouma, qui est pas. Les autres sont des. On a choisi que des écrivains d'Afrique centrale, à l'exception de Kourouma qui est ivoirien, parce que évidemment, en attendant le vote des Bêtes sauvages, il y avait cette idée de réécriture. Du récit d'un tyran africain. Ça dit, je dis une bêtise parce que c'est pas le seul. Comme une espèce de sous-genre littéraire dans la littérature africaine francophone sur la manière dont ces romanciers se sont emparés des régimes corrompus, dictatoriaux, etc., qui ont sévi dans un certain nombre de pays et comment eux ils les ont transformés en personnages de fiction. Pour dire ce que c'est que cette période-là. Et donc, vraiment, le récit, en dehors de la question de l'usage de la tragédie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui nous intéressait, c'était de faire en bande dessinée ce qu'eux, ils ont fait en littérature. C'est-à-dire s'inscrire dans cette lignée-là de ces écrivains qui racontent la folie du pouvoir, l'obsession l'orgueil démesuré, je le répète, de ces personnages qui prennent le pouvoir au risque de détruire leur environnement, leur pays, etc. Donc vraiment, on s'inscrit. Enfin, moi, c'est des lectures qui m'ont beaucoup nourri et je considère que mon récit s'inscrit dans cette tradition-là, dans cette lignée-là.
Je suis pas allé puiser dans les romans pour me nourrir, mais plus encore une fois dans l'art africain qui me stimule graphiquement depuis des années, à vrai dire, que ce soit la statuaire, les masques, les costumes de danse, et Dieu sait si ces formes artistiques sont hyper vivantes, hyper créatives, et puis encore maintenant sur des formes plus moderne, quoi.
Il y a aussi Bruno, parce que enfin t'allais chercher aussi les marques, enfin les restes de la présence de ces dictateurs, que ce soit le palais de Badolité,
c'est vrai qu'il y a eu un gros boulot au niveau documentation pour s'appuyer dessus sur la documentation du régime de l'époque. Enfin, à vrai dire, d'ailleurs, pour faire une digression, le Tse, c'est un mélange de Mobutu et puis d'Amin Dada. Donc dans la première partie du récit, c'est plutôt Amin Dada d'ailleurs quand il apparaît et puis quand il est vêtu de son uniforme militaire. Et en revanche, dans la dernière partie du récit, il emprunte beaucoup plus à Mobutu puisqu'on retrouve la toque léopard, les grosses lunettes, et puis du coup il se transforme vraiment en Mobutu dans la toute dernière partie du récit. Après, ce qui était.
Je veux dire, d'ailleurs, qu'il y a toute une esthétique liée à cette période aussi qui t'a inspiré, parce que il y a toutes ces images un peu iconiques de Mobutu, Idi Amin Dada, des palais, des choses comme ça, qu'on connaît et d'une certaine manière, que tu as recyclé quand même.
Ouais, c'est vrai que j'avais un peu oublié ça, mais un des. un des points motivants pour traiter de Mobutu, c'est parce qu'il fait partie de ces rares dictateurs qui ont quand même créé tout un univers visuel et graphique qui est assez fascinant, à l'image de Hitler et le nazisme, ou du stalinisme avec le réalisme socialiste, qui ont pu créer, des, au-delà des horreurs de leurs régimes respectifs, qui ont créé presque une espèce de culture totalitaire graphique et artistique qui est très marquante. Et Mobutu, en Afrique, il est de cette trempe-là avec... l'Abacoste, la toque léopard, le match de boxe Foreman Ali dans le stade dans les années 70, etc. Donc contrairement à certains de ses confrères moins créatifs, lui il avait quand même je pense une espèce de volonté de marquer son époque aussi par une remise à plat d'un imaginaire visuel comme on peut le faire certains de ses glorieux et malheureux prédécesseurs.
Oui, il y a une esthétique zaïroise qui est assez étonnante. Les dictateurs qui ont suivi cette période de grands dictateurs se sont contentés simplement de piller le pays, ce que vous avez d'autres aussi, hein, mais, et puis c'est tout. Alors que chez des personnages comme Mobutu, particulièrement Mobutu d'ailleurs, il y a toute une esthétique zaïroise, alors qu'il y a aussi à l'époque, hein, des années 70, etc. Bruno parlait de Zaïre 74, à la fois le match de boxe Ali Foreman et le festival de musique avec James Brown, etc. C'est-à-dire le parti politique, l'écriture, etc., etc. Tout ça, ça devient une sorte d'esthétique zaïroise très spécifique dont on se nourrit, pas toujours de manière consciente, mais qui est vraiment, qui était vraiment là et qui l'a recyclé. Il faut ajouter aussi une esthétique, alors plus que zaïroise, congolaise, très spécifique, qui est le catch dont on parle dans notre BD. Catch à fétiche, qui est une spécificité du Congo, et il y a aussi une allusion aux sapeurs. Donc en fait, on se rend compte que petit à petit se crée autour du Congo et des pays limitrophes une esthétique assez spécifique qui est assez peu montrée dans la fiction, et c'était intéressant pour nous de la réutiliser, de la montrer aussi comme un outil de récit, quoi.
Alors, oui, justement, le livre de David Van Reybrouck, Congo, une histoire, là, est-ce que ça suffit pour écrire votre livre, ou est-ce que vous avez aussi rencontré des gens? Parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant une BD quand même très documentée. Je pense notamment à tous les passages à Paris avec les étudiants, etc.
Ouais. Alors, d'abord, moi, j'ai habité 5 ans à Kinshasa, donc c'est un pays, 5 ans, c'est à la fois peu et quand même pas mal, donc c'est un pays que je connais, enfin, Kinshasa, en tout cas, c'est une ville que je connais assez bien, durant ces 5 années à Kinshasa, j'étais enseignant au lycée français, j'ai eu, pour diverses raisons, l'occasion de voyager pas mal dans le pays. C'est un pays qui, pour moi, je ne sais pas comment dire ça, ça paraît toujours un peu bizarre quand je raconte ça, mais ça fait partie de ma mythologie personnelle depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, avant même que j'y aille. Pendant des années, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai vu des choses sur le Congo. Alors, Van Reybrouck, évidemment, c'est arrivé beaucoup plus tard, mais voilà, de Gide à Conrad, en passant par tous les écrivains congolais, Dongala, etc., dont on parle. Liv Joris, qui est une écrivaine belge d'expression néerlandophone que j'ai beaucoup lu et que j'ai rencontré aussi, qui a arpenté le pays en long large. Jean Rollin, Van Reybrouck aussi, que j'ai rencontré. C'est un peu tout cet ensemble-là. C'est bête à dire, mais c'est un pays qui est au centre de mon imaginaire depuis très longtemps, qui l'était avant que j'y aille, qui l'a été pendant que j'y étais évidemment, et qui continue de monter. Pour moi, c'est, je sais pas, il y a des gens qui rêvent du Japon ou de New York. Pour moi, vraiment, le Congo est un pays pivot dans mon imaginaire. What do you think about it?
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial sortie book.
Après du gore, après du roman noir, après du manga, après de la BD française, pour qu'une émission bouquin soit complète, il ne manque que les comics. Et pour les comics, on a notre spécialiste maison, l'ami Damien Demey. Damien, c'est à toi, le micro est ouvert. C'est open mic, comme on dit chez nos amis anglo-saxons.
Pour une fois, on va parler Marvel, on va parler des éditions Panini Comics qui ont sorti deux comics Marvel sur lesquels je me suis penché en particulier. Donc Dark Age, l'âge sombre de Tom Taylor et de Iban Coelho. Tom Taylor, encore et toujours, plus j'en parle, plus je raccourcis son résumé. Donc en accéléré, c'est le papa chez DC d'Injustice, de DC's et de Nightwing dont j'ai parlé dans la précédente émission. Et chose promise, chose due, comme je l'avais annoncé aussi dans cette émission, on va parler de Dark Age, son Elseworld chez Marvel. Et oui, tendre auditeur, je vais vous parler de Marvel. Je sais que vous en rêviez depuis toujours. Alors, Dark Age est un one-shot, c'est-à-dire un comics complet en une fois, publié par Panini Comics en France, et c'est un Elseworld, c'est-à-dire qui ne prend pas place dans la continuité Marvel actuelle de la Terre 616, celle des comics, pas des films et des séries du MCU. Voici le résumé. En empêchant le Décréateur, une entité cosmique surpuissante, de détruire la Terre, le Docteur Strange fait malencontreusement disparaître toute forme d'électricité de la planète. L'humanité tout entière, super-héros y compris, est alors amenée à rebâtir la société. Malgré le drame, le futur semble meilleur, mais c'est sans compter sur Apocalypse qui entend bien profiter du nouveau statu quo pour assouvir sa soif de pouvoir. Avant de me pencher sur l'histoire, je vais féliciter le dessinateur Iban Coelho qui fait un très bon et très beau travail sur tout le comics. Heureusement, car c'est Tom Taylor aux manettes, ce qui veut dire que les personnages que vous voyez ne vont pas forcément durer. Vous pensez que Doctor Strange était tout seul contre le Décréateur ? Non, les autres ont juste vécu moins longtemps. Le contre-coup aussi a été sévère. Imaginez Stark qui vole tranquillement dans son armure et pouf, plus d'électricité. Il y a des atterrissages que personne ne peut réussir. L'introduction va à vive allure. Il y a une urgence, on mobilise les héros, dont Spider-Man. Peter Parker a été le premier à sentir le Décréateur. Enfin, tous ceux avec le Spider-Sense. Entre autres, ils ont eu un hurlement intense que Peter décrit ainsi lorsqu'il souffre. C'est comme si Galactus avait déjà croqué un bout de la Terre. L'introduction n'est pas le seul élément qui va vite. Le comics tout entier est rapide. C'est une lecture simple et efficace dont Tom Taylor apprécie toujours autant les seconds rôles, même si Peter Parker est très présent. D'ailleurs, on est plus proche d'un DC's que d'un Injustice. Il y a de l'espoir en dépit de l'âge sombre et le transmet dedans. De manière comique, je dirais que si nos super-héros ont réussi à bâtir un avenir sans énergie, alors pourquoi pas nous ? Je reste encore chez Marvel et Panini Comics pour un ancien comics réédité à l'occasion de la collection anniversaire de Spider-Man avec 10 comics, chacun au prix de 6,99€. Spider-Verse est écrit par Dan Slott et dessiné par le français Olivier Coipel, Cocorico, et Giuseppe Camuncoli en 2015. Mais les rééditions pas chères, c'est ce que j'aime quand elles sont bien faites. Je pourrais résumer le comics à si vous avez aimé Spider-Man Into the Spider-Verse, vous allez l'adorer, mais j'ai d'autres choses à dire dessus. Tout d'abord, l'histoire. Les héritiers, un clan de redoutables vampires dont fait partie Morlom, traquent tous les Spider-Man du multivers. Peter Parker, Miles Morales, Cindy Moon et différentes versions alternatives de Spider-Man vont devoir unir leurs forces et livrer un combat acharné pour sauver la toile de la vie et du destin qui les relie tous. C'est un concept simple que j'adore. On a un problème, on se mobilise en tant que groupe et on essaie d'y faire face. Ça marche pas toujours. Parfois, d'autres personnes veulent gérer eux-mêmes le groupe. Par exemple, Superior Spider-Man. C'est le Spider-Man avec l'esprit de Dr. Octopus qui a remplacé celui de Peter Parker dans celui de Peter Parker. Et même si ça peut sonner débile, c'est un excellent run de Spider-Man. L'event est donc génial et je voudrais vous en parler, mais je ne veux vraiment pas vous divulgâcher. Donc je vais sacrifier deux scènes qui ne sont pas iconiques, qui font du fanservice, mais qui sont tout de même utiles. Pour se protéger des vampires, il faut se regrouper pour aller chercher ceux qui ne sont pas protégés dans d'autres univers et qui ignorent le risque. C'est à Miles Morales, le Spider-Man de l'univers Ultimate, et Peter Parker, le Spider-Man du dessin animé Amazing Spider-Man, qui vont s'en charger. Le premier Spider-Man qu'ils vont chercher, c'est celui du tout premier dessin animé Spider-Man de 1967, traduit en France par L'Araignée, qui a donné le fameux mème avec trois Spider-Man qui se pointent tous du doigt, repris dans la scène post-générique de Spider-Man Into the Spider-Verse. Mon membre recruté préféré, c'est Takuya Yamashiro, le Spider-Man de la série éponyme japonaise de 1978 à 1979. Et c'est une série Super Senpai. Alors, vu comment j'en parle, on peut se dire que c'est drôle et coloré. Oui, c'est Spider-Man, mais c'est du Spider-Man. Ça veut dire que derrière, on a de l'action, des blessés, des morts, des situations de crise, et l'univers des vampires me donne des frissons. Il n'est pas terrifiant, mais il y a un truc malsain. Spider-Verse marque la naissance de la Spider-Army. C'est un des plus gros événements de l'araignée et c'est l'un des mieux réussis. J'ajouterais que si vous voulez découvrir ou redécouvrir des personnages comme Spider-Man 2099 ou Silk, ou alors si vous voulez savoir si Superior Spider-Man les face à notre Spider-Man, alors foncez dessus. On va rester dans les collections, mais on va retourner chez Urban Comics pour sa nouvelle formule baptisée Urban Nomad. Urban Nomad, c'est un comics en version souple de la taille d'un gros roman ou d'un essai de cinéma, dédicace à Pascal Français dont l'un de ses livres m'a servi de référence, qui permet de le transporter plus facilement. Cependant, deux défauts ressortent possiblement immédiatement de l'œuvre. La taille du texte est beaucoup plus petite et la qualité du papier est pas top, presque identique à celle qu'ils font de manière générale dans les versions estivales. Dans cette collection allant de 5,90€ à 9,90€, on retrouve 10 comics, dont entre autres Killing Joke, Flashpoint Paradox, La Cour des Hiboux en deux volumes, Batman White Knight et Watchmen. Cependant, je ne vais pas vous parler de DC, pas directement, on va parler de Vertigo, Repose en paix. Qui s'en souvient ? J'espère que je ne suis pas le seul, sinon ce serait vraiment très triste, parce que la maison Vertigo appartenait certes à DC, mais avant qu'ils ne l'avalent totalement, elle a introduit des comics indés, je fais des guillemets avec les doigts, qui étaient monstrueux. Sandman, la série Netflix est pas mal, la Doom Patrol, Preacher ou encore V pour Vendetta, et promis, je n'ai pas choisi que des trucs qui ont déjà été adaptés, c'est le pur hasard. Écrit par Warren Ellis, qui revient souvent dans mes chroniques, et dessiné par Darick Robertson, je vous présente le Transmétropolitan. Exilé depuis près de 5 ans loin du fracas de la civilisation, le journaliste Spider Jérusalem est contraint de reprendre le chemin de la ville. Secondé par deux assistantes, l'acide et misanthrope pamphlétaire reprend alors son combat contre les abus de pouvoir, la corruption et les injustices de cette société du XXIe siècle qu'il chérit autant qu'il exècre. Dans les rues étouffées par le brouhaha médiatique, résonnent bientôt les mots amers et enivrés du plus fervent défenseur de la vérité. L'histoire prend place dans un univers cyberpunk typique des années 90, un mélange de saleté, d'hyper-consumérisme, de sexe et de violence. Et pourtant, Spider Jérusalem est le protagoniste que cet univers mérite. C'est un anti-héros cynique et désabusé. Transmétropolitan cherche souvent à être provocant, mais il arrive à faire deux choses en une que j'adore. Il m'a donné du divertissement avec de l'humour et de la réflexion. Les premiers chapitres sont extrêmement drôles et dépeignent une société remarquablement bordélique, mais une société quand même. Il y a plein d'aberrations sociétales, mais le pays fonctionne, les gens vivent comme nous finalement, c'est une société vraie. Les premiers chapitres sont amusants, et les derniers aussi, mais au milieu, je me suis pris une claque. Le comics date de 1997 et ça faisait longtemps que je n'avais pas fermé un comics à cause d'une claque que je m'étais pris, à cause d'un extrait sublime. C'est le moment typique où je m'arrête de lire, j'attends le lendemain pour reprendre de peur que la suite soit moins bien. Et ce ne fut pas le cas. L'une des forces du comics est la narration choisie. Certes, Warren Ellis prend souvent celle de Spider Jérusalem, c'est-à-dire lui nous parlant pendant l'action. Mais parfois la narration choisie est véritablement celle d'un journaliste, quelqu'un qui n'est pas dans l'action mais qui rend son article à la fin de son enquête. Et je confesse que ça m'a coupé le souffle. Spider Jérusalem n'est pas un personnage sympathique, à part pour ses amis, et encore, il traite quasiment tout le monde comme des moins que rien, autant les médecins que le curé allant jusqu'aux politiciens. Aussi énervant qu'il soit, c'est un personnage tout de même empathique, bien qu'il ait souvent trop raison de manière agaçante, il provoque chez nous un effet cathartique. La lecture fut si prenante que ni la taille de la police ou bien le papier ne m'a gêné. C'est pour ça que je parle de détails dont chacun se fera juge. Pour ma part, je suis comblé par cette collection et par le bonheur d'avoir découvert enfin le chef-d'œuvre Transmétropolitan, ainsi que le plaisir de mon plonger dès à présent dans le second tome.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Amiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and the Last But Not the Least
Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Spider-Man. Spider-Man.